partie V, nous avons déjà vu comment Pen obtint du roi la grâce de Vikri. Peu après, il obtint une grâce pour son camarade de collège, John Locke, alors exilé en Hollande. Mais l'orgueilleux philosophe la refusa, il n'avait rien fait, disait-il, qui requit une grâce. L'amitié de Pen et son influence auprès du roi étant désormais bien établie, les sollicitations à son égard devinrent incessantes, et Gerard Creuse nous parle de sa vie affairée. Pen, étant si hautement favorisé, s'attira par là un grand nombre d'amis. Ceux aussi qu'il avait connus auparavant, lorsqu'ils avaient quelques faveurs à demander à la cour, venaient le voir, le courtisaient et le suppliaient de faire avancer leurs diverses requêtes. Pen ne refusa à aucun de ses amis un service raisonnable qu'il pouvait leur rendre, il était prêt à les aider tous, mais plus spécialement les Quakers, et cela partout où leur religion était en cause. On pense d'ordinaire que, lorsque vous me rendez volontiers un service, vous m'encouragez à en attendre un second. Ainsi ils accouraient chez Pen sans relâche, comme vers leur seul pilier et soutien, lui les cajolaient et les recevaient toujours avec bonne humeur, et faisaient aboutir leurs affaires par son influence et son éloquence. De là venait que sa maison et ses portes étaient chaque jour encombrées d'une nombreuse troupe de clients et de suppliants, désireux qu'ils présentent leurs adresses à Sa Majesté. Il y en avait parfois 200 et davantage. Lorsque la conduite de ses affaires exigeait de l'argent pour des écrits, comme mettre les choses en forme et les copier, ainsi que pour les honoraires et autres frais qui se font d'ordinaire en pareille occasion, Pen géra si prudemment les choses que, sur ses propres fonds, qu'il avait en abondance, il acquitta généreusement bien des dépenses imprévues. General History of the Quakers, p. 106. On ne nous dit pas quel genre d'affaires Pen traitait pour ses clients. Une grande part de son activité consistait à obtenir des grâces, car en cette époque de troubles, de rébellions et de guerres civiles, des centaines de personnes étaient constamment en exil ou en danger de mort. Il y avait à la cour de nombreux intermédiaires en grâce, et certains étaient fort scélérats dans leurs procédés, exigeant des sommes énormes ou tout le patrimoine d'un homme pour lui sauver la vie. Pen, toutefois, nous assure-t-on, ne prenait aucun honoraire. Il y avait un certain Chalwood Lawton, qui avait pris part à la rébellion de Monmouth et avait dû se cacher dans les Landes du Staffordshire. Mais, rassuré lorsque la grâce générale fut publiée, Pen le rechercha et se lia d'amitié avec lui de cette manière chaleureuse qu'il semble avoir prodiguée à tant de gens qui lui plaisaient. Lawton, en retour, devint un grand admirateur de Pen et, dans un mémoire qu'il laissa, parle avec enthousiasme de son inépuisable source de bienveillance envers toutes ces créatures semblables, sans aucun regard étroit ou mesquin pour les partis, civils ou religieux. Après avoir raconté comment Pen, à sa demande, obtint une grâce gratuite pour Aaron Smith, qui s'apprêtait à en acheter une au prix de la cession de toute sa fortune, Lawton donne une description qui éclaire quelque peu la manière de Pen et l'esprit de l'époque. Après le dîner, comme nous buvions un verre de vin, M. Pen, se tournant vers lui, dit à M. Pope qu'il lui avait amené un homme tel qu'il n'en avait jamais rencontré. Je viens à l'instant de lui demander comment je pourrais faire quelque chose pour lui-même, et il m'a demandé d'obtenir la grâce d'un autre homme, et ainsi M. Pen répéta longuement ce qui s'était passé entre nous lors de la promenade sur la terrasse, puis, se tournant vers moi, il dit « Bien que je veuille à ta requête obtenir, si je le peux, la grâce d'Aaron Smith, je désire pourtant que tu réfléchisses à quelque chose par quoi je puisse te faire, à toi, une bonté. » Là-dessus, je lui dis que je pouvais lui dire comment il pourrait prolonger ma vie. M. Pen répondit « Je ne suis pas médecin, mais je te prie, dis-moi ce que tu veux dire. » Alors je lui dis que Jacques Tranchard, car c'est ainsi que nous, Whigs d'État, avions coutume de l'appeler, qui fut ensuite secrétaire d'État, était à l'étranger en exil et que, s'il pouvait lui obtenir la permission de rentrer au pays avec sûreté et honneur, le fait de boire de temps à autre une bouteille avec Jacques Tranchard me rendrait si joyeux que cela prolongerait ma vie. À cela M. Pen répondit en souriant, « Pour te montrer que je ne te refuserai rien de ce que tu peux raisonnablement demander, je te promets d'obtenir aussi sa grâce, si je le peux, puis nous bavardâmes une demi-heure, et nous nous séparâmes. » En 3 semaines ou 1 mois il obtint la grâce d'Aaron Smith, et ayant persuadé Milord Jeffery, alors Lord Chancelier de se joindre à lui, ils obtinrent en peu de temps celle de M. Tranchard. Mémoire Pena East Sock, vol Y par IP 215, cette foule de clients contraignent Pen à vivre à Kensington, à Londres. Il loua Holland House, belle résidence appartenant au comte de Warwick, et il entretenait un carrosse et 4 chevaux. Il pouvait sembler payer sur sa propre abondance, comme l'appelle Creuse, les dépenses de ses clients Quakers, mais cette abondance fondait rapidement, car en plus de ses autres frais, il perdait de l'argent à cause de la Pennsylvanie. Il y payait toutes les dépenses du gouvernement, et les fonctionnaires avaient la mauvaise habitude de tirer sur lui pour tout ce dont ils avaient besoin, comme s'il eût été une mine inépuisable. « J'ai eu deux autres lettres de plus », écrit-il à son intendant, « avec trois lettres de change. Je suis fâché que le public ait si peu de considération pour moi qu'il n'empêche pas qu'on tire sur moi des traites, moi qui suis venu pour leur affaire, et j'aurais mieux aimé perdre 1000 livres que de m'être éloigné de Pennsylvanie. James n'envoie plus de traite, car j'ai déjà assez à faire pour tout maintenir à l'équilibre ici, et je pense à rentrer avec ma famille, cela ne peut se faire sans des frais immenses. » Son cœur aspirait à jouir de nouveau des plaisirs simples et honnêtes de sa colonie sauvage et à ne plus la quitter. Mais il était retenu en Angleterre non seulement par le différend avec Lord Baltimore, mais encore par l'état critique de la politique et les demandes des Quakers. Au printemps 1686, peu avant que le roi ne mît en liberté les 1300 Quakers, avec les autres dissides, Penn écrivit un important pamphlet intitulé « A Persuasive to Moderation ». C'était son vieux sujet, la liberté de conscience, mais il le reprend avec des arguments neufs et de nouvelles suggestions. À certains égards, c'est l'une de ses meilleures défenses en la matière, qu'il a si souvent traitée, car en cette occasion, il s'attache tout particulièrement à donner des exemples où la tolérance avait fait la preuve de son succès politique et commercial. Il commence, bien sûr, par l'Antiquité et l'état florissant de l'Empire romain, qui tolérait plus de 30 000 rites religieux différents parmi son peuple. Mais il arrive bientôt à son époque et donne de nombreux exemples du succès de la tolérance dans les petits États d'Europe et dans la plupart des colonies britanniques d'Amérique. Il se considérait comme démontrant de façon concluante, par ses exemples, que la tolérance n'avait jamais mis en péril la monarchie. Son exemple le plus important, bien sûr, est la Hollande, ce marais du monde, comme il l'appelle, ni mer ni terre ferme, aujourd'hui rivale des plus grandes monarchies. Non par conquête, mariage ou accession de sang royal, voies ordinaires de l'Empire, mais par sa propre clémence et son industrie superlative. Puis il montre que la tolérance assurait la sécurité de la propriété, qui ne pouvait jamais être sûre lorsque les biens risquaient à tout moment d'être emportés par le shérif pour payer des amendes dues à la dissidence religieuse. Puis il parle de la déclaration d'indulgence du règne précédent, qui, en délivrant les dissides de la persécution, encouragea grandement le commerce. Tant que dura l'indulgence, tous les hommes, dit-il, travaillaient joyeusement et commerçaient hardiment lorsqu'ils avaient la parole royale de garder ce qu'ils obtenaient. Ils ne semblent toutefois pas se rendre suffisamment compte qu'il s'agissait d'une dangereuse violation de la Constitution que de permettre au roi de suspendre les lois, même pour accomplir un si bon dessein. Il n'avait pas encore écrit sa maxime « Faire le mal pour qu'il en sorte du bien, c'est l'affaire des maladroits en politique comme en morale ». Il appelle la déclaration d'indulgence le « remède souverain de notre Constitution anglaise ». Une telle indulgence, pense-t-il, sera la panacée à tous les maux politiques. Si l'on accordait aux dissides une pleine liberté religieuse, ils seraient tous, dit-il, unis en faveur du gouvernement, et des rébellions comme celle de Monmouth, ainsi que des complots comme celui de Rye-Ouse cesseraient. Cette dernière remarque était juste, mais il ne l'était pas de favoriser l'octroi de cette liberté en permettant au roi de suspendre les lois, et il est surprenant de trouver Penn, en somme, plaidant pour une nouvelle déclaration d'indulgence. Penn déclara plus tard que ce pamphlet avait eu une diffusion et une influence non négligeables, et ce n'était pas un homme à se rengorger de ses écrits ni à les surestimer. Qu'il ait influencé le roi ou non, le roi fut, en cette occasion, plus sage que Penn, car il se borna à gracier les dissides emprisonnés, ce qu'il avait le droit de faire, sans chercher encore à violer le droit constitutionnel en suspendant les lois. Penn et les Quakers furent, naturellement, fort satisfaits de ce résultat, mais Penn semble avoir su que tout n'était pas aussi rose qu'il y paraissait. Écrivant à son intendant, après avoir dit combien il languit de retourner en Pennsylvanie, mais que de grandes entreprises l'assaillent, il ajoute « Le Seigneur nous garde ici en ce jour sombre. Sois sage, discret, respectueux envers les supérieurs. Le roi a libéré tous les amis par une grâce générale, et il est courtois envers nous, bien que, quant à l'Église d'Angleterre, les choses semblent se resserrer. Plusieurs catholiques romains sont parvenus à de hautes charges dans l'armée, la marine et la cour. Ainsi, Penn savait parfaitement que le roi serrait l'Église d'Angleterre. La lettre est quelque peu prudente, mais Penn voyait manifestement que le roi avait gracié les dissides pour éviter un temps leur hostilité, tandis qu'il installait des catholiques romains au pouvoir et livrait à Rome à la fois le gouvernement et l'Église. Cela, dit Penn, rendait le jour sombre, et il devait prévoir que, lorsque le peuple saisirait pleinement ce que faisait le roi, il y aurait quelque terrible explosion. Il était impuissant à détourner le roi de cette voie, et nous ne savons pas même s'il essaya alors. Son influence s'étendait seulement à l'obtention de faveurs pour des individus. À propos de ses pertes en Pennsylvanie, Il déclara que la négligence de l'approvisionnement que le conseil lui avait promis, en raison des grandes dépenses qu'il avait engagées pour la province, était une des causes qui le retenait loin de la Pennsylvanie, ajoutant qu'il ne dépenserait pas sa fortune privée pour remplir une charge publique. Il n'est rien que mon âme aspire davantage en ce monde, après la vie de ma chère famille, que de revoir la pauvre Pennsylvanie, mais je ne puis me frayer un chemin ici, et je ne vois rien fait de ce côté-là qui m'y invite. Pourquoi donc continua-t-il à rester en faveur auprès du roi? C'était sa seule manière d'obtenir du soulagement pour les Quakers, et ce fut assurément une grande tentation lorsque 1300 d'entre eux venaient d'être relâchés. Quant à une liberté de conscience générale établie par la loi, il n'en avait apparemment aucun espoir alors, sauf en Pennsylvanie. En Angleterre, il fallait ramasser la liberté là où on pouvait la prendre. Il devait protéger contre les ingérences à la fois la Pennsylvanie et les Jersey, et il avait son procès avec Lord Baltimore. Tous ses intérêts importants pouvaient être lésés s'il perdait la faveur à la cour. Il est curieux de noter que, pendant quelque temps après que le roi eut gracié tous ceux qui étaient en prison pour leur religion, les magistrats et les juges continuèrent à appliquer les lois contre les dicides, les dénonciateurs continuèrent à espionner, et les constables à procéder à des arrestations. Quelqu'un qui venait d'être libéré par la grâce pouvait, par un magistrat zélé, être enfermé de nouveau pour une nouvelle infraction. Penn lui-même, bien qu'il fût si intime du roi et qu'il obtint chaque jour des faveurs pour ses clients, n'était pas à l'abri des magistrats et des dénonciateurs, qui envoyaient des constables pour le faire descendre pendant qu'il prêchait. « J'ai été, écrit-il à son intendant, pris trois fois à des réunions, mais je m'en suis tiré, béni soit Dieu. » C'était un étrange état de choses, et Penn menait une vie étrange, si influent auprès du roi qu'il était devenu un courtisan avec des centaines de clients, et en même temps, allant prêcher aux Quakers, supposés ennemis du gouvernement, et en étant arraché de là par des constables et des soldats. Le roi, toutefois, après quelque temps, fit cesser l'action des magistrats et des constables, de sorte que les lois contre les dicides restèrent dans les recueils sans être exécutées. Les Quakers étaient assez heureux d'avoir un ami à la cour, et il ne faisait aucun doute que Penn fût un homme très influent. En ces jours-là, il y avait beaucoup d'hommes ayant quelques crédits à la cour que l'on appelait des « courtiers en grâce », des hommes dont le métier consistait à obtenir des grâces pour des personnes accusées de crimes, extorquant d'ordinaire en paiement toute la richesse de l'accusé. Penn n'usa de son influence pour obtenir des grâces que parce qu'il croyait à l'innocence de l'homme ou de la femme accusée. Et cette honnêteté, en un âge où la trahison et la tromperie étaient les normes habituelles, fit de lui plus que jamais un homme remarqué et notable. Les affaires d'État devenaient de plus en plus embrouillées en Angleterre. Le roi nommait des catholiques romains aux charges et n'était pas aussi bien disposé envers les hommes de l'Église d'Angleterre que les protestants ne le jugeaient convenable. De toutes parts, hommes et femmes tramaient pour leur propre avancement, changeant trop souvent de religion pour s'accorder à leurs ambitions du moment. Penn, qui prêchait dans une assemblée quake puis se rendait aux appartements du roi, où il rencontrait des catholiques et des prêtres, semblait agir selon la mode générale du temps. Néanmoins, son intimité avec le roi suscita des bavardages et de vastes soupçons quant à ses motifs. Il suivait alors un chemin très difficile, donnant souvent l'impression de porter de l'eau sur les deux épaules. À l'été de cette année 1686, Penn fit un troisième voyage en Hollande et en Allemagne. Ce fut un voyage à la fois politique et religieux, mais nous savons peu ou rien de sa partie religieuse, car il ne nous en a laissé aucun récit. Nous pouvons toutefois supposer qu'il parla beaucoup de la Pennsylvanie et incita les Mennonites, Schwenkfeldiens et autres sectes allemandes proches des Quakers à émigrer dans sa province, comme beaucoup le firent. L'historien Quake Sewell traduisait alors en néerlandais la description de la Pennsylvanie par Penn, ainsi que « no cross, no crown », et Penn le rencontra en Hollande. De la partie politique du voyage, en revanche, on sait quelque chose, et c'est important, car cela montre à quel point Penn s'impliquait de plus en plus dans les desseins du roi. On ne sait pas avec certitude si le roi le chargea officiellement de rendre visite, en Hollande, à Guillaume, prince d'Orange, mais, en tout cas, il le fit et plaida la politique du roi. Le prince d'Orange avait épousé Marie, fille de Jacques, qui succéderait au trône si Jacques n'avait pas de fils, et comme les choses tournèrent, elle et le prince prirent le trône à Jacques par la force 2 ans plus tard. L'objet de la visite de Penn était de persuader le prince, dont l'époux était héritière présomptive de la couronne, d'accepter non seulement la liberté du culte religieux en Angleterre, mais aussi l'abolition des lois de test qui excluaient à la fois les catholiques romains et les dicides du Parlement et des charges. Guillaume était un protestant ardent et libéral, et un croyant aussi sincère que Penn en la liberté religieuse. Il consentit aisément à ce qu'il y eût liberté de culte non seulement pour les dicides, mais pour les papistes, mais il refusa très naturellement de prendre part à la suppression des lois de test qui empêchaient un roi catholique romain de livrer à Rome le gouvernement et l'Église britannique. Il est étrange que Penn ait été disposé à insister sur une telle demande, car il savait que Jacques y faisait entrer des catholiques romains dans les charges aussi vite qu'il le pouvait, malgré les tests. Penn aurait peut-être pu se défendre en disant qu'il croyait à une liberté religieuse absolue, sans restriction ni test d'aucune sorte. À quoi Guillaume d'Orange aurait fort justement répondu qu'une liberté aussi complète serait peut-être possible un jour, mais qu'à l'heure présente les tests devaient être maintenus afin de tenir les catholiques romains à l'écart du pouvoir, car toute l'histoire anglaise avait montré que, s'ils obtenaient un jour le plein contrôle, ils organiseraient la pire sorte de despotisme religieux. Guillaume voulait aussi, bien sûr, maintenir les tests pour écarter du pouvoir les dicides qui pourraient détruire l'Église d'Angleterre. Sa théorie, qu'il mit ensuite en pratique et qui s'avéra la bonne, y était de protéger l'Église anglaise, de la maintenir au pouvoir, et de tenir hors du pouvoir les dicides, romains et autres, tout en accordant à tous une liberté complète pour autant que cela concernait leur culte. Le gouvernement britannique a été conduit selon ce principe, avec un relâchement progressif, jusqu'à notre époque. Penn, en cette occasion, semble ne pas avoir eu conscience de l'apparence qu'il donnait d'être un instrument des catholiques. Tout en se professant ami de la liberté et protestant, il apparaissait à la cour du futur roi d'Angleterre comme le dupe et l'instrument de Jacques I, catholique romain et bien connu comme ennemi de la liberté. Il se rendit très impopulaire auprès de personnes importantes qui étaient réellement ses amis, et s'amassa une réserve d'ennui pour l'avenir. Les partisans du prince d'Orange apprirent à le mépriser, et cet adepte bavard et très violent, l'évêque Burnet, conçut pour lui une antipathie implacable qu'il ne prit ensuite aucun soin de dissimuler. Quant au prince lui-même, il était suprêmement fort dans la qualité où Penn était faible. Il pénétrait la nature humaine d'un seul coup d'œil. Il ne gaspilla aucune antipathie pour Penn, car il voyait qu'il n'était qu'un homme sincère qui commettait une grande erreur. Astérisque, il n'y avait que 30 000 catholiques romains dans toute l'Angleterre, contre au moins 8 millions d'habitants au total, même pas 1% de la population. Ainsi, Penn n'était pas tout à fait aussi naïf que cet auteur le dépeint, c'est plutôt l'Angleterre qui avait des craintes irréalistes d'une prise de contrôle papiste du Parlement, presque impossible. Mais la peur est irrationnelle, et la logique de Penn fut donc ignorée. Astérisque Penn, nous dit ensuite Burnet, persuada un avocat écossais, Steward, de quitter son parti puritain et presbytérien pour devenir un ardent partisan du roi Jacques. Ce Steward vint lui aussi en Hollande pour persuader Guillaume d'accepter l'abolition des tests, et déclara que Jacques n'abolirait jamais les lois pénales contre le culte des dicides, à moins que les tests ne fussent abolis aussi, de sorte qu'aucune sorte de liberté religieuse ne pourrait exister en Angleterre si les lois de tests n'étaient pas sacrifiées. En Hollande, il rencontra des réfugiés presbytériens d'Écosse, parmi lesquels ce Robert Stuart de Coltness. Lorsqu'il revint en Angleterre, Penn recommanda que le roi Jacques laissât ses hommes rentrer, puisqu'ils étaient en exil uniquement à cause de leur religion et n'étaient coupables d'aucune trahison. Le roi y consentit, mais quand ce Robert Stuart revint, il constata qu'il était sans ressources parce que tous ses biens avaient été remis au comte d'Arran. Ce Robert se rendit auprès de Penn et lui exposa la situation. Penn s'en saisit aussitôt et alla trouver le comte d'Arran, un vieil ami de Penn, de ses jeunes années en Irlande. Le comte de Buchan a décrit la manière dont Penn mena l'affaire. « Vous avez pris possession du domaine de Coltness, dit Penn, vous savez qu'il n'est pas à vous. Ce domaine, dit Arran, je l'ai payé très cher. Je n'ai reçu aucune autre récompense pour mon ambassade coûteuse et pénible en France. Tout cela est fort bien, ami James, mais sois-en assuré. Si tu ne me donnes pas à l'instant un ordre à ton chambellan pour 200 livres à Coltness, afin de le ramener dans son pays natal, et 100 livres par an pour subsister jusqu'à ce que les choses soient réglées, je ferai en sorte que cela te coûte, auprès du roi, autant de milliers. » Ainsi parla Penn, et en conséquence, le comte d'Arran se conforma à la demande de Penn, et un peu plus tard l'ensemble du domaine fut rendu à ce Robert Stuart. Il est évident que l'on comprenait que William Penn avait une grande influence auprès du roi d'Angleterre. Lorsqu'il revint de Hollande, Penn trouva que les Quakers augmentaient en nombre, et il prêchait souvent devant jusqu'à 1000 auditeurs en une seule réunion. En même temps, son intendant et d'autres personnes en Pennsylvanie lui écrivaient pour demander davantage d'argent, il leur envoyait tout ce qu'il pouvait épargner, et même plus encore, bien que, comme il s'en plaignait parfois dans ses lettres, il ne comprit pas pourquoi une province naturellement si riche aurait besoin de quelque aide de sa part. Il écrivit, qu'il repartirait volontiers dans sa province si le différend de frontière, avec Lord de Baltimore, ne le retenait pas en Angleterre. Mais naturellement, il voulait que ces gens là-bas lui procurassent un bénéfice sur ses vastes possessions. « Si l'on peut pourvoir à ma table, à ma cave et à mon écurie, écrivit-il, avec une barge et un yacht ou un sloop au service du gouverneur ou du gouvernement, je puis essayer de venir ici, car devant Dieu, je puis dire que je suis en retard de 5 000 livres de plus que je n'ai jamais reçu ni vu pour des terres dans cette province, et d'être ainsi déjoué par les marchands est décourageant et insupportable. » Au printemps 1687, Jacques y fit ce qui, de prime abord, était une grande proclamation de liberté. Il publia une déclaration d'indulgence suspendant non seulement les lois contre le culte des romanistes et autres dicides, mais aussi les test-actes qui les excluaient du Parlement et des charges civiles et militaires. Il fit tomber les barrières et ouvrit le gouvernement d'une manière dont il pouvait assurément dire qu'elle était très en avance sur son temps, car une telle libéralité ne fut atteinte que 100 ans plus tard. Lawton, dont le mémoire a déjà été cité, dit que Penn s'était opposé à une indulgence qui suspendait les lois d'une manière si anticonstitutionnelle et si impopulaire. Nous ne savons pas ce qui se passa entre Penn et le roi à ce sujet, et Lawton ne nous donne pas la source de son information. Mais les écrits de Penn ne montrent pas d'opposition à la déclaration d'indulgence, pas plus que sa conduite. Il fut de ceux qui s'efforcèrent d'obtenir des divers corps religieux des adresses et mémoires remerciant le roi de sa déclaration, et lui-même présenta l'adresse des Quakers décrivant l'indulgence comme bien accueillie dans tout le pays. Nous avons la réponse du roi à cette dernière adresse, et elle mérite d'être lue et retenue. Messieurs, je vous remercie de tout cœur de votre adresse. Certains d'entre vous savent, j'en suis sûr, vous le savez, M. Penn, que ce fut toujours mon principe que les consciences ne doivent pas être forcées, et que tous les hommes doivent avoir la liberté de leur conscience. Et ce que j'ai promis dans ma déclaration, je continuerai de l'accomplir tant que je vivrai. Et j'espère, avant de mourir, le régler de telle sorte que les âges à venir n'auront aucune raison de le changer. C'était la parole de liberté du roi, en laquelle Penn dit plus tard avoir eu une foi implicite. Il croyait que le roi finirait par établir une liberté complète, et ce fut l'une des raisons pour lesquelles il accepta de rester à ses côtés. Toute la cour avait, en effet, pris les airs les plus extraordinaires de libéralité. Les prêtres papistes surenchérissaient sur Penn et décrivaient avec enthousiasme les immenses bienfaits qui résulteraient de la liberté religieuse. Mais le roi avait des méthodes particulières pour établir cette chose pourtant si désirable, et la manière dont Penn put continuer à le soutenir est un mystère que chaque lecteur devra expliquer pour lui-même au fil du récit. Avant d'en venir à la déclaration d'indulgence, Jacques avait fait entrer des catholiques romains dans les charges et dans les bénéfices de l'Église établie. En congédiant certains juges et en composant le tribunal de ses favoris, il avait obtenu une décision selon laquelle, bien qu'il n'eût peut-être pas le droit de dispenser des tests qui interdisaient aux romanistes, en tant que corps, de détenir des charges, il pouvait, pour des raisons particulières, dispenser de ces tests dans des cas individuels. De cette manière, il pensait pouvoir donner les charges du gouvernement à des personnes de sa religion, une à une. Une fois le mouvement amorcé et la mode lancée, une grande partie de l'aristocratie changerait de religion, comme elle l'avait fait sous des règnes antérieurs, et ceux qui ne changeraient pas pourraient être forcés. Il supposait que les hommes de l'Église d'Angleterre restaient très attachés à la doctrine de l'obéissance passive et prêts à accepter sans question la religion du pouvoir civil si elle était appuyée par la force. En cela toutefois, il se trompait. Qu'on ait réussi ce jeu auparavant était vrai. Au début de la Réforme, lorsque tout était en pleine mutation, lorsque les esprits étaient déconcertés et les convictions chancelantes, quiconque s'emparait des rouages du gouvernement pouvait contraindre la religion de l'Angleterre à suivre presque n'importe quel cours. Mais ce temps était passé, comme Jacques le découvrit bientôt, et Penn ayant échoué à obtenir de Guillaume d'Orange le consentement à une abrogation des tests qui tenaient les catholiques romains à l'écart du pouvoir, il résolut d'abroger ces tests de sa propre autorité par la déclaration d'indulgence. Pour la rendre plus acceptable, il dit qu'il tenterait d'amener le Parlement à abolir par une loi les tests qu'il abolissait alors par décret. Penn conserva sa confiance en Jacques malgré tous les faits et avertissements. Il connaissait la situation. Il savait que le grand dessein de l'Église romaine, à cette époque, était de s'emparer du pouvoir politique et qu'elle y réussissait souvent, et il en connaissait aussi les conséquences. Il savait que Louis Xive de France était en bon terme avec Jacques et, quand l'occasion se présenterait, l'aiderait à livrer à Rome le gouvernement anglais. Il avait des lettres d'amis sur le continent décrivant les persécutions qui s'y poursuivaient encore, comment des protestants étaient pourchassés par des soldats, qui les maintenait éveillés en leur jetant de l'eau jusqu'à ce qu'ils deviennent catholiques ou sombres dans la folie. Il se souvenait que son oncle, Georges Penn, avait été pris par l'Inquisition en Espagne, ses biens confisqués par l'Église, lui-même emprisonné 3 ans, durant lesquels il était fouetté une fois par mois, puis enfin torturé sur le chevalet et renvoyé en Angleterre, brisé et mourant. Il dut sentir tout le poids de cela, mais il tenta d'y répondre dans un pamphlet des plus extraordinaires, intitulé « God advis tout roman catholique en protestant dissenté ». Ce pamphlet parut peu après la déclaration d'indulgence et se proclamait ouvertement en soutien de la politique du roi. Il est significatif que Penn ne voulut pas y apposer son nom, mais le publia anonymement. L'essentiel en est que les lois de Test doivent être abolies dans l'intérêt de la liberté religieuse, parce qu'il n'y avait désormais aucun danger venant des catholiques romains. Ils ne pouvaient pas s'emparer du gouvernement, même si l'on supprimait les tests, parce que, d'abord, les masses du peuple anglais s'opposaient à une telle tentative. Les catholiques étaient des gens sensés, connaissaient leurs propres intérêts et ne voudraient pas faire ce que la majorité en Angleterre désapprouvait. La tolérance, dit-il, et rien de plus, voilà ce dont tous les romanistes devraient se contenter. Et il faisait mine de penser que, parce qu'ils devraient s'en contenter, ils s'en contenteraient donc. Ils n'en prendraient pas trop, disait-il. Certains d'entre eux, sans doute, voulaient tout prendre, mais ils n'étaient pas en nombre suffisant. En fait, l'ensemble des catholiques ne formait qu'une petite fraction de la population, à peine 30 000 sur 8 millions, et ils étaient très divisés d'opinion. Quant à l'idée que le roi mettrait les romanistes au pouvoir, cela était impossible, parce qu'il était un homme âgé de 53 ans, issu d'une famille à courte espérance de vie, et qu'il n'aurait pas le temps, avant sa mort, d'accomplir les desseins dont on le soupçonnait. De plus, il avait donné sa parole contre toute chose de ce genre, et pourquoi la parole d'un roi ne vaudrait-elle pas celle de n'importe quel homme? Penn eut même l'audace de dire que Jacques n'établirait pas le papisme et le despotisme parce qu'il avait promis de ne pas le faire. Quant à Louis-Xiv de France venant aider Jacques dans un tel dessein, Penn dit qu'il n'y avait rien à craindre de ce côté-là parce qu'il n'était pas probable que Jacques fût si mal conseillé que d'admettre une armée étrangère en Angleterre. Et même s'il le faisait, l'Angleterre avait assez de navires et d'hommes pour l'en empêcher. Le pamphlet défendait la liberté de culte tout en soutenant l'abolition des tests, et soutenait donc la politique de Jacques. Ce pamphlet anonyme fut mal reçu par le peuple d'Angleterre, tout aussi soupçonneuse à l'égard des motifs de Jacques que Penn était favorable aux libertés garanties à tous, particulièrement à ses bien-aimés amis Quakers. La suspicion et la défiance envers les motifs de Penn, en soutien au roi catholique, furent attisées par ce pamphlet. Mais si les Quakers se réjouissaient de cet acte du roi, les catholiques romains étaient encore plus enchantés. Bientôt il devint manifeste que ces derniers allaient tirer le plus grand avantage de ce nouvel acte de clémence de la part du roi Jacques. À mesure qu'il devenait évident que le roi entendait faire à sa tête, en dépit du Parlement ou de l'opinion publique, et que cette volonté consistait probablement à livrer le gouvernement aux partisans de l'Église de Rome, les Dicides accoururent au secours de l'Église d'Angleterre. Si fort que presbytériens, baptistes, quakers et autres Dicides fussent en désaccord avec l'Église établie d'Angleterre, tous sentaient qu'elle était de beaucoup préférable à l'Église de Rome. Ils croyaient que le roi Jacques était de connivence avec le pape et avec le roi de France, Louis-Xiv, et ils pouvaient prévoir que, si leur souverain parvenait à ses fins, le pays pourrait rapidement revenir aux conditions du règne de Bloody Mary. Aussi pratiquement tous les protestants s'opposèrent-ils désormais à l'illégale déclaration d'indulgence de Jacques. Mais William Penn ne le fit pas, il dit qu'il faisait toujours confiance au roi. Puis il parcourut le pays, s'efforçant d'amener les gens à partager sa vision de Jacques. Le roi tenta ensuite de s'emparer des universités d'Oxford et de Cambridge pour les catholiques. Il leur attribua Christ Church College et University College à Oxford, et lorsqu'un poste de président devint vacant à Magdalen College, il ordonna aux Fellows d'élire un catholique. Les Fellows refusèrent, et les agents du roi enfoncèrent les portes du collège, chassèrent le président élu par les Fellows eux-mêmes et les étudiants, et transformèrent le lieu en séminaire papal. D'abord, Penn argumenta avec le roi à ce sujet, mais bientôt après il changea d'avis et conseilla au collège de céder. Ici, Penn commit une faute grave. On comprend que les gens aient commencé à penser que l'ancien champion de la liberté religieuse n'était plus quake de cœur. Le roi Jacques poursuivit ses desseins. Il devenait si hardi qu'il tenta de contrôler tous les comtés et bourgs, et de forcer les gens à choisir ses propres favoris comme officiers. Partout où il le pouvait, il destitua les anciens officiers et mit à leur place ses amis catholiques. Puis, en avril 1688, il fit une autre erreur. Il publia une seconde déclaration d'indulgence très semblable à la première, et déclara qu'il ne nommerait à aucune charge publique que des personnes qui le soutiendraient dans le maintien de cette indulgence. Puis il ordonna que cette nouvelle loi fût lue deux dimanches de suite par les clercs dans toutes les églises d'Angleterre. Il entendait ainsi humilier l'Église d'Angleterre. Mais Jacques était allé trop loin. Seuls quelques clercs lurent la nouvelle déclaration, et dans la plupart des cas où ils le firent, les gens quittèrent les églises dès qu'ils en entendirent les premiers mots. Sept évêques supplièrent le roi de ne pas faire exécuter son ordre de lecture, et le roi Jacques fit juger ces sept pour libelles et les emprisonna à la tour de Londres dans l'attente du procès, parce qu'ils refusaient de fournir une caution. Ce fut ce qui devint célèbre sous le nom de l'affaire des sept évêques, et souleva dans toute l'Angleterre l'indignation au plus haut degré. Il est très probable que Penn s'opposa à l'influence jésuitique. Sans doute était-il, comme le dit Dixon, opposé à la lecture de la déclaration d'indulgence dans les églises, et, comme nous le verrons, il conseilla au roi de relâcher les évêques emprisonnés pour avoir refusé d'en ordonner la lecture. Il conseilla aussi, semble-t-il, au roi d'être prudent dans sa relation avec la France, sinon le pays serait mécontent. À peu près au même moment, un fils naquit au roi et à la reine, et le peuple anglais y vit le signe que les catholiques assuraient le contrôle du gouvernement pour le règne suivant. Ils étaient déterminés à ce qu'il n'en soit pas ainsi, et invitèrent donc Guillaume, le prince d'Orange protestant, et son épouse Marie, fille de Jacques I, à venir prendre le trône d'Angleterre. Guillaume débarqua et prit la couronne avec très peu d'opposition. Jacques, abandonné par sa cour, son armée et sa marine, jeta le grand sceau d'Angleterre dans la Tamise et s'enfuit en France, où il vécut le reste de ses jours dans un palais que lui donna Louis Xiv. L'Angleterre était maintenant en bien meilleur état. Le pays avait un roi et une reine honnête qui proclamèrent bientôt une liberté religieuse sincère. Quant à l'emprisonnement des sept évêques, l'hôte nous assure que Penn, dès le début, s'opposa à leur incarcération, et le jour où le fils du roi naquit, Penn alla trouver le roi et le pressa vivement de les remettre en liberté, comme un acte qui serait si populaire auprès du peuple que la bienveillance de celui-ci envers le roi pourrait être restaurée. Les protestations de Penn contre les mesures du roi se faisaient en secret et n'étaient connues que de quelques-uns de ses amis. Aux yeux du public et du monde, il apparaissait tout au plus comme le médiateur qui tentait de rendre les mesures du roi acceptables au peuple, et la plupart des gens en concluaient tout naturellement qu'il inspirait et approuvait ces mesures. Ils découvrirent bientôt que Jacques l'avait envoyé auprès du prince d'Orange pour persuader ce prince d'accepter que les tests qui tenaient les papistes à l'écart des charges publiques fussent supprimés. Et ils découvrirent aussi qu'il était l'auteur du pamphlet anonyme déjà mentionné, Good Advice to the Church of England, dans lequel il préconisait la suppression des tests et se moquait des craintes de suprématie papale comme d'enfantillage. Des milliers de personnes en Angleterre étaient alors aussi fermement convaincues que Penn était un jésuite déguisé que nous sommes aujourd'hui convaincus du contraire. Il avait reçu les ordres, disait-il, à Rome, où on lui avait accordé une dispense pour se marier, et depuis lors il avait fréquemment officié comme prêtre lors de la célébration de la messe à Whitehall, à Saint James's et en d'autres lieux d'Angleterre. Si nous avions vécu à cette époque, nous aurions probablement partagé l'opinion qu'ils avaient, car les jésuites n'étaient pas alors le corps relativement insignifiant et inoffensif qu'ils sont devenus depuis. Les jésuites étaient tellement redoutés que, jusqu'à Jacques I, ils pouvaient être exécutés s'ils étaient pris en Angleterre ou dans ses colonies, on les considérait comme la police secrète du pape, sans aucune limitation dans les moyens pour servir la cause du pape, y compris meurtre, assassinat, révolution, coup d'État, etc. Ils imprégnaient la vie politique et sociale de toute l'Europe. Leurs méthodes et leurs desseins atteignaient alors rapidement cette énormité pour laquelle ils furent ensuite expulsés de tous les pays d'Europe et, pendant un temps, de l'Église romaine elle-même. Ils adoptaient toutes les formes imaginables de déguisement. Les uns devenaient prédicateurs baptistes ou puritains, les autres officiants, jurant comme des cavaliers, certains devenaient domestiques. Ils étaient les hommes les plus instruits, les plus astucieux, les plus infatigables et les moins scrupuleux. Leur déguisement était si parfait, et dans bien des cas, si théâtraux, que le peuple s'était accoutumé à les chercher sous les formes et dans les lieux les plus inattendus. Il aurait été tout à fait dans leur manière qu'un d'entre eux endosse le rôle de l'avocat le plus ardent de la liberté religieuse en Angleterre, qu'il soit en tout point l'homme que Penn était, et que sous ce masque, tout en jouissant d'une intimité privée avec le roi, il obtienne l'abolition des tests et fasse entrer au pouvoir tous ses frères jésuites. À l'automne 1688, quelques semaines avant que le prince d'Orange ne débarque à Torbay pour chasser Jacques du trône, ses soupçons contre Penn devinrent si répandus que certains de ses amis cherchèrent à le sauver en lui donnant l'occasion de les démentir par écrit et d'expliquer ses relations avec le roi. William Popple, secrétaire du comité du Conseil privé pour le commerce et les plantations, lui écrivit une longue lettre, formelle mais belle, lui demandant, de la manière la plus douce et la plus amicale, s'il avait conscience de la situation dans laquelle il se trouvait. La conscience de son innocence, disait Popple, lui inspirait un trop grand mépris des calomnies. Il était possible d'être trop serein et trop sublime. La poursuite inébranlable d'un but honnête était louable, mais en même temps, un homme devait protéger sa réputation. Il était lié d'une profonde intimité avec un roi que tout le royaume croyait en train d'établir le papisme par la force comme religion nationale. Il jouait un rôle si important dans les conseils de ce roi qu'il était difficile pour les gens de supposer qu'il fût autre chose qu'un papiste absolu. « Votre position est trop considérable, disait Popple, pour un papiste d'une forme ordinaire, vous devez donc être un jésuite. » Il offrait à ses amis une perspective des plus mélancoliques, car il donnait à ses ennemis l'occasion qu'ils désiraient de le détruire. L'accusation de jésuitisme jetée sur lui annulait le bénéfice de tous ses efforts dans la grande cause de la liberté de conscience, cause à laquelle il avait voué sa vie. Cela a affaibli la force de vos efforts, en a entravé les faits, et a grandement contribué à priver cette pauvre nation de ce bonheur inestimable et de cet établissement assuré que, j'en suis persuadé, vous aviez en vue, et dont tous les hommes bons et sages conviennent qu'une liberté de conscience juste et inviolable produirait infailliblement. Je souhaite de tout cœur que cette considération eût été plutôt prise à cœur, et qu'une preuve manifeste de votre sincérité dans la profession que vous faites eût accompagné tous vos efforts pour la liberté. Dans sa réponse à cette lettre, Penn mit de côté la phraséologie convenue de sa secte et écrivit dans cet anglais simple, mais doux et agréable, qu'il savait parfois manier. Il n'y a, bien sûr, de la manière la plus complète et la plus détaillée, qu'il fût papiste ou jésuite, et il n'y a chacun des cas particuliers de jésuitisme invoqués contre lui. Le fait d'avoir officié comme prêtre, sa dispense pour se marier, ou d'avoir enlevé de Pennsylvanie un homme autrefois moine pour le livrer à ses ennemis en Angleterre. La seule raison que je puisse concevoir pour laquelle ils me tiennent pour catholique romain, c'est que je vais souvent à Whitehall, lieu qui ne m'est pas plus interdit qu'au reste du monde, lequel pourtant, à ce qu'il paraît, y trouve un accueil bien plus favorable. J'y ai presque continuellement eu telle ou telle affaire pour nos amis, que j'ai toujours servi avec une sollicitation constante en tout temps depuis que je suis de leur communion. J'avais aussi quantité de bons offices personnels à rendre, par principe de charité, à des gens de toutes opinions, estimant qu'il était de mon devoir de faire valoir le peu d'influence que j'avais pour le bien de ceux qui en avaient besoin, surtout des pauvres. Je dois ajouter quelque chose de mes propres affaires aussi, bien que je doive reconnaître, si je le puis sans vanité, qu'elles ont toujours eu la moindre part de mes pensées et de mes peines, sinon elles ne dépendraient pas encore comme elles dépendent aujourd'hui. Il poursuit ensuite en expliquant pourquoi il apprécie le roi Jacques et croit en lui. « Ne peut-on pas, demande-t-il, qu'un disciple protestant soit respectueux, reconnaissant et utile au roi, quand bien même il serait de la communion catholique romaine, nous ne tenons ni nos biens ni notre protection de lui selon notre persuasion, et dès lors, sa persuasion ne doit pas être la mesure de notre allégeance. » C'était une phrase des plus extraordinaires à écrire au regard des événements récents. La persuasion du roi le conduisait à violer la propriété de la manière la plus scandaleuse. Il retirait aux propriétaires légitimes les collèges de l'Église d'Angleterre pour les donner à des papistes. Il contraignait des villes à rendre leurs chartes afin de les remettre à des fonctionnaires papistes. Il bourrait le Parlement par la corruption et les pots de vin afin qu'il remît aux papistes les bénéfices, les bâtiments d'église et les autres biens de l'Église d'Angleterre. La persuasion religieuse devenait très étroitement liée au droit de propriété et à l'allégeance. Mais Penn continue. Je suis désolé de voir tant de gens qui semblent affectionner la religion réformée par leur défiance envers lui le roi, la recommander si mal. Quelles que soient les pratiques des catholiques romains, auxquelles nous pourrions raisonnablement objecter, et sans doute y en a-t-il, il a pourtant désavoué et blâmé ces mauvaises choses par son opinion déclarée contre la persécution, par l'aisance avec laquelle il tolère effectivement tous les dicides, et par la confirmation qu'il offre au Parlement pour la sécurité de la religion protestante et de la liberté de conscience. Et pour son honneur, aussi bien que pour ma propre défense, je suis obligé en conscience de dire qu'il m'a toujours déclaré que telle était son opinion, et qu'en toute occasion, lorsqu'il était duc, il ne m'a jamais refusé d'en donner des preuves renouvelées, chaque fois que j'avais quelques pauvres victimes de conscience à plaider auprès de lui. C'était assurément une affirmation étrange de la part de Penn. Beaucoup ont l'impression qu'il prenait le roi au mot sur tout et fermait les yeux sur les faits, qu'il prenait son assurance qu'il n'imposait pas le papisme dans les collèges, au Parlement, au gouvernement et dans l'Église d'Angleterre, qu'il le regardait le faire tranquillement et disait qu'il ne le voyait pas. Il semble aussi que, pour obtenir un soulagement immédiat aux Quakers et à quelques autres dissides, il était prêt à ce que le roi établît le papisme dans l'Église d'Angleterre et dans le gouvernement. Dans un autre passage, il argumente contre l'opinion selon laquelle il soutenait les mesures de Jacques. Qu'y a-t-il de plus sot et de plus faux que de conclure que, parce que je suis souvent à Whitehall, je dois être l'auteur de tout ce qui s'y fait et qui ne plaît pas au dehors, mais en supposant même que certaines de ces choses aient été faites, dites-moi, je vous prie, si je suis tenu de m'opposer à quoi que ce soit que je ne suis pas appelé à faire. Je n'ai jamais été membre d'un conseil, cabinet ou comité où se traitent les affaires du royaume. Je n'ai eu ni charge ni confiance, et par conséquent rien ne peut être dit avoir été fait par moi. Cependant, une chose, je le sais, j'ai partout observé très religieusement, et me suis efforcé, dans mes conversations avec des personnes de tout rang et de toute opinion, d'apaiser les échauffements et de modérer les excès, même en politique. Sa dernière raison de soutenir Jacques se trouvait dans ces mots. À cela, laissez-moi ajouter la relation que mon père a avec le service de ce roi, sa faveur particulière pour obtenir ma libération de la Tour de Londres en 1669, la humble requête que mon père lui fit sur son lit de mort de me protéger des désagréments et des troubles auxquels ma persuasion croyance pourrait m'exposer, et sa promesse amicale de le faire, et l'exécution exacte de cette promesse dès l'instant où je m'adressais à lui, je dis que. Et c'était probablement la véritable explication du dévouement de William Penn envers un roi injuste, sa gratitude envers un homme qui avait été l'ami de son père comme de lui-même astérisque, ce même très puissant d'amitié se manifesta maintes fois dans les relations de Penn avec des agents en Pennsylvanie qui, se fiant à son amitié, le trompaient. C'était peut-être un trait noble, mais il plaçait ce chef Quaker, un homme qui avait combattu si longtemps et si ardemment pour assurer la liberté religieuse en Angleterre, dans la situation singulière d'ami et de soutien d'un souverain qui faisait tout son possible pour supprimer la liberté de religion. Il n'est guère étonnant que beaucoup de gens en Angleterre n'aient pas compris l'attitude de Penn, et il n'est guère étonnant que, lorsque Guillaume et Marie montèrent sur le trône, Penn se trouva dans une position discréditée et très difficile. Astérisque Penn n'était ni stupide ni aveugle. Si le roi avait été aussi coupable que l'auteur en est convaincu, Penn n'aurait pas été aussi sur la défensive. Il est bien plus probable que les efforts du roi en matière de discrimination positive en faveur de citoyens anglais catholiques romains longtemps opprimés aient été perçus avec alarme comme une conspiration. En outre, si la critique avait été sans fondement, Penn n'aurait pas vacillé dans son soutien au roi. La loyauté de Penn envers Jacques se comprend mieux si l'on considère ce qu'il écrivit à ses enfants, juste avant sa première visite en Pennsylvanie. « Un ami aime en tout temps, dit Salomon, Prov 17-17. Et ton ami est l'ami de ton père, ne l'abandonne pas, Prov 27-10. » Chapitre XI. Penn en défaveur le nouveau roi d'Angleterre, Guillaume Yi, était un homme honnête et droit, et fit un excellent souverain, à bien des égards l'un des tout meilleurs que l'Angleterre ait jamais eu. Le gouvernement avait été très corrompu sous les deux derniers rois Stuarts, sous Guillaume et Marie, il devint respectable. Guillaume avait déjà fait du petit pays des Pays-Bas une puissance mondiale et avait combattu vaillamment pour défendre la cause protestante. Lorsqu'il devint roi du pays bien plus fort qu'était l'Angleterre, il dit à un ami « Enfin j'ai une arme dont les coups feront mal ». Certains disent qu'il voulait dire qu'il pouvait désormais faire plus que jamais pour la liberté religieuse, d'autres qu'il pensait à son opposition à la France. Et il fit davantage pour la liberté religieuse que n'importe quel roi d'Angleterre avant lui. Il ne faisait pas des promesses pour les rompre ensuite, ni ne dressait un parti contre un autre au service de ses objectifs égoïstes. Il trouva le pays comme un véritable réseau d'intrigues et de complots, et il le démêla aussi vite qu'il le put. Il était plus froid, plus réservé que Charles, le Merry Monarque, ou que Jacques Yi, et il dut naturellement opérer beaucoup de changements dans le gouvernement. Aussi était-il tout à fait naturel que ces hommes habitués aux deux rois Stuarts ne fussent pas entièrement satisfaits de Guillaume. Penn était l'un d'eux, s'étant attaché à Charles et à Jacques, il ne regardait pas Guillaume avec bienveillance et se laissa paraître presque comme un ennemi de la nouvelle maison régnante. Or le roi Guillaume, bien qu'il n'eût pas d'affection particulière pour le chef Quaker, était tout disposé à se montrer parfaitement juste envers lui. Il aurait probablement été heureux de demander l'avis de Penn sur des questions touchant les Quakers, si un malheureux incident n'avait placé Penn sous le soupçon. Le roi Jacques, exilé, écrivit de France une lettre à Penn, et, comme les espions du roi Guillaume, veillaient à suivre à la trace toutes les lettres que Jacques envoyait en Angleterre, on sut bientôt que Penn recevait des messages du roi en exil. La première chose que sut Penn fut qu'on lui signifiait un ordre de comparaître devant le conseil privé pour répondre à l'accusation d'entretenir une correspondance de trahison, il ne fut pas effrayé. Il se rendit aussitôt au conseil, se constitua prisonnier et demanda qu'on lui permît de présenter sa réponse en présence du roi. On y consentit, et la réunion fut fixée au lendemain. Guillaume se montra gracieux et bienveillant lorsque le Quaker comparut devant lui, et le roi fit allusion au plaisir qu'il avait eu à rencontrer M. Pen à La Haye. Puis il sortit la lettre du roi Jacques que ses espions avaient interceptée et la remit à Pen, disant que la signature était sans aucun doute celle de Jacques Stuart. Il demanda ensuite à Pen de lire la lettre à haute voix. Pen le fit et constata que la lettre rappelait à Pen l'amitié de Jacques pour son père et pour lui-même, et exprimait l'espoir qu'à l'heure du besoin il viendrait au secours de la cause des Stuarts. Pen rendit la lettre au roi, qui demanda ce que le roi Jacques entendait par la prière faite à Pen de venir à son aide, et pourquoi Jacques lui avait écrit. Pen répondit qu'il lui était impossible d'empêcher Jacques de lui écrire si l'ancien roi le souhaitait. Il poursuivit en reconnaissant qu'il avait aimé le roi Jacques dans sa prospérité et ne pouvait le haïr maintenant dans l'adversité, qu'il était disposé à rendre sa bonté de toute manière privée qu'il pourrait, mais qu'il n'avait aucune pensée de déloyauté envers le nouveau souverain et ne s'était jamais rendu coupable d'aucun acte déloyal. Sa défense fut si virile et si franche que Guillaume fut prêt à libérer Pen sur le champ, mais, comme certains membres de son conseil s'y opposèrent, le roi ordonna à William Pen de fournir une caution pour comparaître à la prochaine Trinity Term du tribunal, qui commençait le 22 mai et se terminait en juin. Lorsque Pen fournit cette caution, il recouvra sa liberté. À l'été de cette année-là, 1690, Jacques envahit l'Irlande avec une armée, et Guillaume s'y rendit pour l'affronter. L'amiral français, ayant battu les flottes hollandaises et anglaises réunies, croisait au large des côtes. La reine Marie fut laissée seule à Londres pour gouverner du mieux qu'elle pouvait, et à mesure que les complots visant à renverser elle-même et son mari se multipliaient, Pen fut soupçonné avec Lord Clarendon, Lord Preston et une quinzaine d'autres. Il fut arrêté par proclamation le 18 juillet 1690 et resta de longs mois en prison jusqu'à son procès à la fin de l'année. Plusieurs de ceux arrêtés avec lui furent condamnés et l'un d'eux fut exécuté, mais lui-même fut acquitté. Lord Preston, qui se fit témoin à charge, ne semble rien avoir eu contre lui, sinon des conversations où Pen avait mentionné de longues listes de personnes favorables au roi Jacques. De telles déclarations, bien sûr, ne prouvaient rien. Il parlait naturellement souvent en termes favorables de Jacques, et des espions et des indicateurs pouvaient aisément interpréter ses paroles comme des preuves d'un complot. Il était désormais évident que Guillaume, en devenant roi, avait d'autres objectifs à accomplir que de délivrer l'Angleterre d'un tyran. Il entendait utiliser l'Angleterre dans une alliance avec les puissances protestantes pour écraser la France. La guerre commençait déjà, et le peuple anglais prévoyait les dépenses d'une grande armée avec une augmentation des impôts. Cela aliéna un certain nombre d'amis de Guillaume, qui l'avaient aidé à monter sur le trône. Nous supposerions, naturellement, que cela aliénerait davantage encore Pen, et qu'il pourrait naturellement se trouver associé à ceux qui, comme lui, étaient favorables à Jacques. Il ne pouvait guère éviter de leur parler. Certains d'entre eux pouvaient comploter le retour de son vieil ami, et, du fait de sa fréquentation de telles personnes, il n'est pas surprenant que le gouvernement le soupçonnât souvent. Mais pendant un court temps après son procès, à la fin de 1690, le gouvernement semble avoir été satisfait de son entière innocence en matière de complot, car presque immédiatement, après le procès, le secrétaire d'État lui accorda un ordre de convoi pour l'emmener en Pennsylvanie. Il publia des propositions destinées aux colons, dont un certain nombre qu'il comptait emmener avec lui, et il devait bientôt partir. Mais George Fox mourut le 13 janvier, et le 14 Pen prêcha à ses funérailles. Peu après la cérémonie, il apprit qu'un mandat avait été lancé contre lui et que les officiers avaient l'intention de l'arrêter aux funérailles, mais s'étant trompés d'heure, ils arrivèrent trop tard. Nous ne savons pas quelles étaient les preuves à cette occasion. Il entra dans la clandestinité, fait que certains de ses biographes ont tenté d'obscurcir en l'appelant en retraite, vie retirée ou prise de logement privé. Clarkson, toutefois, nous informe sans hésitation qu'il prit un logement privé à Londres, et tous les biographes semblent d'accord pour dire que, durant les 3 années où il resta caché, il demeura à Londres tout le temps. Stoughton décrit le Londres de cette époque, avec ses cours et ruelles étranges et retirées, ses maisons sinueuses et surplombantes, où, dit-il, Pen aurait pu être aussi efficacement dissimulé que dans un désert. Mais ce n'est là qu'une supposition pittoresque. Dans une lettre écrite vers la fin de sa clandestinité, Pen dit « Voilà plus de 3 ans que je suis traqué de haut en bas, et l'on ne m'a jamais permis de vivre tranquillement en ville ou à la campagne. » Narcissus Luttrell, dans son journal, dit qu'à un moment de cette clandestinité, Pen alla en France. Il semblerait donc qu'il fût constamment en mouvement et ne resta pas tout le temps à Londres. Il ne fait aucun doute, toutefois, qu'il fût parfois à Londres, et il semble y avoir eu un lieu particulier où il se cachait, car après que le roi retira ses soupçons et que la clandestinité ne fut plus nécessaire, il dit qu'il prêcha à Londres puis alla visiter le sanctuaire de ma solitude. Il ajoute, puis après cela voir ma pauvre femme et mes enfants, l'aîné étant avec moi tout ce temps, nous ne saurons jamais exactement pourquoi Penn se cacha durant ces 3 années. Bess, dans sa vie de lui déjà souvent citée, dit que le mandat avait été délivré sur la base d'informations fournies par le notoire Fuller, qui faisait métier, comme Titus Oat, d'accuser des personnes en vue. En l'absence d'un système moderne de police judiciaire, le gouvernement était contraint de s'appuyer sur ses informateurs irréguliers. Fuller ne fut pas longtemps après déclaré, par le Parlement, être un escroc et un imposteur, et puni. La déclaration de Bess a été acceptée par tous les biographes ultérieurs, qui soutiennent que Penn ne voulait pas courir les risques d'un procès sur la base de preuves fournies par ce misérable, et résolut donc d'échapper totalement à l'arrestation. Fuller n'était toutefois pas alors connu pour être aussi infâme qu'il fut prouvé par la suite. Macaulay fait remarquer que, d'après sa propre autobiographie, il n'était pas alors en Angleterre, et il cite aussi une lettre écrite par Caermarthen au roi Guillaume, le 3 février, disant que le seul témoin contre Penn était Preston. Penn ne dit nulle part que ce mandat reposait sur les informations de Fuller. Il dit qu'il fut inculpé en Irlande sur des informations fournies par Fuller et quelques autres, mais c'était une autre affaire. Il convient aussi d'observer que Fuller fut discrédité quelques mois après l'émission de ce mandat contre Penn, mais Penn resta caché pendant 3 ans. Le fait que Penn se soit caché est contesté par Maria Webb, auteure de The Penn and Penningtons. Voici sa version de ce qui s'est passé. Lorsque le prince et la princesse d'Orange furent invités à prendre possession du trône, William Penn aurait alors pu retourner en Pennsylvanie s'il avait choisi de le faire, mais il savait bien qu'un tel geste serait interprété défavorablement, et il demeura donc pour braver la tempête. Il fut bientôt placé en état d'arrestation et, après avoir été examiné de la manière la plus minutieuse, rien ne put être retenu contre lui qui justifiât sa détention. Encore et encore, chaque fois qu'une nouvelle fabrication était préparée par ses ennemis, il fut traduit devant le conseil, mais rien, là encore, ne pouvait être prouvé. Ses réponses véridiques et transparentes emportaient la conviction de tous ceux que n'influençait pas un âpre esprit de parti. Son aveu viril, dit Janet, de son amitié persistante pour le roi exilé, qui avait été son ami et celui de son père, était conforme à son caractère franc et noble, mais en contraste frappant avec la conduite de certains qui fréquentaient alors la cour du monarque régnant. À mesure que l'année 1689 déclinait, rien ne semblait empêcher le gouverneur de Pennsylvanie de retourner dans sa province à l'automne suivant. Il avait toujours entretenu une correspondance régulière avec son conseil provincial en tant que corps, ainsi qu'avec plusieurs des principaux officiers de l'État, afin de maintenir parmi eux de bonnes dispositions et le sentiment de son autorité. L'une de ses lettres écrites vers cette époque au conseil, composée de Quakers, se conclut ainsi « Et maintenant, amis, j'ai encore un mot à vous dire. C'est ceci, la foi, l'espérance et la charité sont les grands secours et les marques des vrais chrétiens, mais par-dessus tout la charité et l'amour divin. Bienheureux ceux qui y sont parvenus, qui y gardent la vérité, et qui y œuvrent et agissent. Pauvres certes, ils le sont dans leur propre esprit, mais riches dans celui de Dieu. Ont rentré dans cet amour de plus en plus, il préservera la paix dans l'Église, la paix dans l'État, la paix dans les familles, oui, et la paix dans les cœurs particuliers. Que Dieu Tout-Puissant attire, je l'en supplie, tous vos cœurs dans cet amour céleste de plus en plus, afin que l'œuvre de cet amour rayonne pour la gloire de Dieu et pour votre consolation. Quant aux choses d'ici, en ce qui me concerne, je vais bien et je suis libre, et pour l'Église de Dieu la liberté continue. Mais parmi les nations d'Europe, de grandes guerres et des rumeurs de guerre. Je suis, dans la vérité qui nous rapproche de Dieu et nous unit les uns aux autres, votre fidèle ami et frère, William Penn. La lettre qui suit porte, comme mention, la date de 1690, et l'on a des raisons d'inférer qu'elle fut écrite au printemps de cette année-là. Voici une lettre de Guglielma Maria Penn à Margaret Fox, chère et honorable amie. M. F. Mon cœur est rempli pour toi de salutations d'un amour vrai, constant et fidèle. Je le sens dans ce qui est au-delà des mots, dans l'unité de l'esprit de vérité. Il me vient à l'esprit, tandis que j'écris, quelque chose que j'ai vu te concernant en rêve il y a longtemps, vers le commencement de ces mauvais esprits. Je pensais vous voir, toi et le cher Georges, et de nombreux amis, dans une assemblée où la puissance du Seigneur se manifestait grandement, et je pensais que des esprits sombres et méchants y entraient, et qu'ils s'efforçaient avec excès contre la vie divine qui était dans l'assemblée. Leur principal dessein visait toi et Georges, mais surtout toi. Ils s'efforçaient de te faire du mal, mais, pensais-je, tu pris tellement le dessus sur eux qu'ils ne purent te toucher, sinon déchirer une petite partie de tes vêtements, et tu t'échappas sans blessure. Alors une douce réjouissance et un triomphe se répandirent dans toute l'assemblée. Ce rêve est ancien, et le Seigneur l'a tellement accompli que ta vie règne maintenant sur eux tous. C'est par toi qu'ils ont commencé, mais le Seigneur t'a donné et te donnera encore la victoire, pour la joie et la consolation de ton peuple. Chère Margaret, j'ai reçu depuis longtemps ta lettre bien accueillie, mais j'ai retardé de t'écrire dans l'espoir de donner un compte-rendu plus complet de mon mari et de notre départ. Mais l'hiver et le printemps ont été si rigoureux que les lettres ont été entravées, et maintenant que beaucoup sont arrivés, aucune de celles de date récente n'est pour moi, parce que mon mari s'attendait chaque jour à nous voir arriver là-bas, et je souffre de sa déception. J'aurais été vraiment heureuse, dis-tu, de le voir avant de partir, mais je suis contente et ne désire pas qu'il vienne seulement pour nous emmener, car je sais qu'il a beaucoup d'affaires à traiter, et je sais aussi que ce n'est pas faute d'un amour vrai ni du désir de nous voir qu'il reste, mais parce qu'il doit d'abord veiller aux devoirs de la place où il se trouve maintenant, et faire ce qui est juste et dans quoi il trouve la paix. Si le Seigneur donne clarté et attirance pour venir, j'en serais heureuse, mais je n'en vois pas la probabilité pour le moment. Nous avons été beaucoup empêchés, et le sommes encore, parce que l'ami qui s'occupe ici de nos affaires a des difficultés. Il s'était, il y a bien des années, porté caution pour un homme qui est mort récemment, et dont les créanciers se retournent maintenant contre lui, de sorte que je ne peux compter sur son maintien ici, et je ne sais où en trouver un autre qui soit apte à qui confier les choses pour l'instant, ce qui est pour mon esprit une grande épreuve, mon mari écrivant à chaque lettre pour nous. Je suis véritablement rafraîchie en ton souvenir, et tes lignes me sont très chères. Je désire tes prières au Seigneur en notre faveur, afin qu'il nous accompagne de sa douce et céleste présence dans notre entreprise, et alors tout ira bien pour nous, que nous restions ou partions. Chère Margaret, dans le sentiment de cela, et dans un amour véritable, je te dis adieu, et je suis ton amie affectionnée, selon ma mesure de la vérité bénie, Guglielma Maria Penn. P.S. Mon très cher amour salue ta fille Loe, dont j'ai le sentiment des souffrances, mon amour aussi à ta fille et à ton fils Abraham, et à Isabelle si elle est avec toi. Les devoirs de la place où se trouvait alors William Penn requéraient beaucoup de sagesse, comme sa femme dévouée le savait bien. Mais faire ce qui était juste, et dans quoi il avait la paix, apportait un bonheur que le monde ne pouvait lui ôter. L'automne vint et passa, mais Guglielma et les enfants étaient toujours incapables de visiter leur foyer transatlantique. Leur cher projet quant au moment du départ avait été contrarié, mais cette perspective restait devant eux lorsque, le 13 du 11e mois 1690, William Penn fut appelé au chevet de mort de son honorable ami George Fox. Dans une lettre de cette nuit-là, adressée à la veuve absente du défunt, il dit « Ton cher mari et mon ami bien-aimé a achevé cette nuit son glorieux témoignage. Il est parti et nous a laissé avec une tempête au-dessus de nos têtes, assurément grande miséricorde pour lui, mais pour nous un signe de chagrin à venir. » Une tempête s'amassait en effet au-dessus de leurs têtes, et elle éclata bientôt. Un homme nommé Fulé, qui espérait être récompensé par ceux qui étaient les ennemis de Penn, l'avait accusé sous serment d'avoir conspiré avec d'autres pour inviter au retour du roi déposé. Il est possible que, même en écrivant à Margaret Fox, il ait entendu dire que quelques accusations avaient été montées contre lui. Ses paroles semblent le suggérer, et l'on nous dit que les gardes envoyés pour l'arrêter avaient l'intention de le faire prisonnier pendant qu'il assistait aux funérailles de son ami. Mais s'étant trompés d'heure, ils arrivèrent trop tard. Cependant, ils l'appréhendèrent ensuite, et il fut conduit pour être interrogé devant le conseil privé. Il supplia qu'on le conduisît devant le roi Guillaume et qu'on le questionnât en sa présence. Cette demande fut accordée, et durant l'enquête qui suivit, il admit avoir aimé le roi Jacques pour la bonté constante qu'il avait reçue de lui, et l'ayant aimé dans sa prospérité, il ne pouvait le détester dans son adversité. Il était disposé, dit-il, à répondre à cette bonté passée par tout service privé en son pouvoir, mais en aucune façon et en aucune circonstance il n'avait permis, ni ne permettrait jamais, que ses sentiments l'influencent au point de manquer à son devoir envers l'État. Après l'examen le plus approfondi, le roi, ayant entendu son aveu viril et sans détour, souhaita le libérer, mais certains membres du conseil s'y opposèrent, et il fut maintenu prisonnier dans ses propres logements loués en ville. Il ne lui fut pas permis de sortir, mais on l'autorisa à recevoir tous les amis qui voudraient lui rendre visite. On le traitait ainsi comme une personne suspecte, mais on l'autorisa à regagner son domicile. Il eut de nouveau recours à sa plume, et les trois années suivantes de retrait donnèrent lieu à plusieurs ouvrages de valeur. Ses fruits de solitude, comme il les appelait, furent nombreux et importants. L'une de ses publications, très utile en ce temps-là et fort estimée par les amis, s'intitule « A Key Opening the Way to Every Capacity », How to distinguish the religion professed by the people called Quakers from the perversion and misrepresentation of their adversary. Cet ouvrage, connu 12 éditions du vivant de son auteur, un autre s'intitulait en essai Toward the Pre and Future Peace of Europe. Il propose que l'Europe reconnaisse une diète générale ou un congrès des nations, où chaque nation serait représentée par des députés, et où les différents nationaux pourraient se régler sur des principes justes sans recourir à la guerre. Un troisième s'intitulait Some Fruit of Solitude, une réflexion and maxim relating to the conduct of human life. Les réflexions et maximes qu'il renferme témoignent de l'expérience d'un chrétien sage et pratique, exprimée en aphorismes brefs et percutants. Un quatrième fut de Fruit of a Father's Love, avec d'autres d'intérêts plus passagers. Ici encore, nous pouvons reconnaître la main souveraine de notre Père Céleste, dont le serviteur, condamné à la solitude par des hommes déraisonnables, fut rendu capable d'y porter beaucoup de fruits. Pendant ce temps fulé, par l'accusation duquel William Penn avait été emprisonné, fut démontré, par une autre suite de circonstances, comme un imposteur parjuré. Sur ordre de la Chambre des communes, Fulé fut traduit en justice et reconnu coupable, condamné à une sévère punition. Malgré cela, d'autres circonstances étaient défavorables à la libération de Penn. Le roi avait été pressé de confisquer ses domaines, et il avait cédé jusque-là en incluant ses biens irlandais parmi les terres confisquées dans ce pays. Mais le roi Guillaume lui-même désirait prendre possession de la Pennsylvanie. Il n'aimait pas le précédent d'un gouvernement établi sur une base de paix, sans aucune disposition militaire, et au début de 1692, un ordre en conseil fut rendu, privant William Penn de son gouvernement et l'annexant à celui de New York. Ce fut un coup terrible, car il avait engagé dans sa colonie tout ce qu'il pouvait épargner des revenus tirés de ses domaines, en plus de ce qui avait été payé à l'origine pour elle. Mais ce n'était pas de considération pécuniaire que venait sa plus grande peine, sa propriété acquise pouvait encore, dans une certaine mesure, être respectée. C'était le danger imminent pour tous ses plans d'un gouvernement juste, libre et pacifique qui le faisait le plus profondément souffrir. Pourtant, à travers tout, l'espérance ne l'abandonna jamais, il croyait que son gouvernement lui serait encore rendu, et sa liberté aussi. Mais il ne voulait pas que l'un quelconque de ses amis demandât, comme une faveur du roi, l'une ou l'autre de ces choses. Elle devait lui être accordée comme un droit, ou pas du tout. Vers la fin de 1693, sa liberté personnelle lui fut rendue par ordre du roi, la nouvelle lui étant transmise par le secrétaire d'État. Écrivant à Thomas Lloyd pour l'en informer, ainsi que ses autres amis de Pennsylvanie, il dit « Du secrétaire, je suis allé à notre réunion au Bull and Mouse, puis visiter le sanctuaire de ma solitude, et après cela voir ma pauvre femme et mes enfants, l'aîné étant avec moi tout ce temps. Ma femme est encore faible, mais je ne suis pas sans espérer son rétablissement, elle qui est l'une des meilleures des épouses et des femmes. Après la libération de William Penn, lorsque l'état de ses affaires, dans tous ses détails, se présenta devant lui, il sembla difficile d'expliquer pleinement les déclarations de son agent confidentiel Philip Ford. Il était vrai que ses domaines irlandais n'avaient récemment rien rapporté, les fermes de ses tenanciers avaient été ravagées pendant la guerre, et un état de désordre général avait été produit par la confiscation projetée. Son titre de propriété lui avait été rendu, mais les loyers ne suivirent pas rapidement. Ses biens anglais avaient été gérés par Philip Ford et son fils qui, bien que se disant Quakers, était sous ce masque des hommes rusés et avides. Dans sa difficulté, Penn fit appel à l'Amérique pour ses quitrents, mais on lui envoya peu ou pas de loyer. Au colonel Fletcher, gouverneur militaire de New York, sous l'autorité duquel la Pennsylvanie avait été placée, l'Assemblée provinciale avait, sur demande, voté des subsides pour l'entretien des dépenses du gouvernement, telles qu'elle n'en avait jamais accordé à son propre souverain paternel. Penn en fut profondément touché, mais il jugea aussi probable que, ayant découvert ce que d'autres exigeaient d'eux, il ferait sans doute mieux s'il retrouvait sa position légitime. Il présenta donc à la reine Marie, le roi étant absent en Flandre, une requête pour être rétabli dans le gouvernement de la Pennsylvanie. Une enquête approfondie fut ouverte, sa charte réexaminée, le gouvernement de la province investigué, et puisqu'il apparaissait évident qu'il n'avait rien fait qui invalidât ses droits originels garantis par charte, ceux-ci lui furent rendus. Fin de la version de Maria Webb des difficultés de Penn avec Guillaume et Marie. Commentaire de l'éditeur du site, il paraît difficilement crédible que Penn se soit caché du gouvernement comme Fichet l'a rapporté, ce que Webb contredit totalement. Chaque fois que George Fox apprenait qu'un mandat avait été lancé contre lui, il allait immédiatement au tribunal pour répondre aux accusations. On rapporte que Penn fit de même. La clandestinité n'était pas considérée comme une conduite honnête par les premiers Quakers et montrait un manque de confiance dans la main du Seigneur pour diriger les événements à sa gloire. Je pense que la version des faits de Maria Webb est bien plus vraisemblable. Il semble à peine crédible que Penn ait réellement pu conspirer contre le nouveau roi et la nouvelle reine. En tout cas, il paraît qu'à cette époque, il ait été traité comme un objet de suspicion. On peut dire que, à moins qu'il n'eût sacrifié un principe fondamental du christianisme et des Quakers astérisques, il fut certainement l'infortuné victime des informateurs sans scrupules. Le roi Guillaume quitta l'Angleterre pour une visite à La Haye, et en son absence, un autre complot fut découvert, cette fois pour faire venir Jacques de France pendant l'absence du roi et s'emparer de Londres avant que l'armée ne soit prête à la défendre. Le complot fut découvert avant d'avoir fait de véritables progrès. L'évêque Burnet, ennemi déclaré de Penn, dit « Les hommes qui ont conçu ce dessein étaient le comte de Clarendon, l'évêque d'Ely, Lord Preston et son frère M. Graham et Penn, le célèbre Quake. Astérisque les premiers Quakers ne s'opposaient jamais à leur gouvernement. » Voici la déclaration de Penn, « Ainsi la foi et la patience remplacèrent le combat, dans la doctrine et la pratique de ces gens. Ils ne devraient pas, pour cela, être odieux au gouvernement civil, puisque, ne pouvant pas combattre pour lui, ils ne peuvent pas combattre contre lui. Mais bien qu'ils ne fussent pas pour le combat, ils étaient pour la soumission au gouvernement, et non seulement par crainte, mais par motif de conscience, là où le gouvernement n'interfère pas avec la conscience, le croyant être une ordonnance de Dieu, et lorsqu'il est administré avec justice, un grand bienfait pour l'humanité. » Tiré de l'introduction de William Penn au journal de George Fox, et voici un extrait d'une lettre de George Fox aux responsables du gouvernement au temps de leur grande persécution. Un témoignage du peuple de Dieu, que le monde appelle Quakers, à tous les responsables du gouvernement, du plus haut au plus bas. Nous sommes pacifiques et recherchons la paix, le bien et le bien-être de tous, comme le manifeste notre vie et notre conduite paisible, et nous désirons le bien et le salut éternel de tous et la paix éternelle de leurs âmes. Nous sommes devenus héritiers de la bénédiction avant que la malédiction fût, et de la puissance de Dieu avant que le diable fût, et avant la chute de l'homme. Nous sommes héritiers de l'évangile de paix, qui est la puissance de Dieu, et nous sommes héritiers du Christ, nous qui l'avons reçu en héritage, lui et son royaume éternel, et possédons la puissance d'une vie sans fin. Connaissant notre part et notre héritage, cela doit ôter de vos esprits, et de l'esprit de tous les gens, toute jalousie à notre sujet. Quant à tous les complots et conspirations, les fauteurs de complots et les conspirateurs contre le roi, et tous ceux qui aident ou assistent quiconque de ce qui précède, nous avons toujours, et nous nions encore absolument qu'ils soient des nôtres, ou de la communion de l'Évangile, du royaume du Christ, ou de ses serviteurs. Les quatre premiers de ces hommes étaient réellement coupables, et l'un d'eux, Preston, ayant été effectivement pris avec les papiers en sa possession, sauva sa vie en se faisant témoin à charge pour l'État, et, dans ses aveux, nomma William Penn comme l'un des conspirateurs. Ainsi Penn fut inclus dans l'ordre d'arrestation de tous les traîtres. Il n'y avait rien pour prouver Penn coupable. Il envoya toutefois son beau-frère à Henry Sidney, un vieil ami à lui qui jouissait d'une grande faveur auprès du roi Guillaume. Sidney accepta de rencontrer Penn et d'entendre sa version des faits. Les deux hommes se rencontrèrent, et ensuite Sidney écrivit au roi pour lui rapporter ce que Penn avait dit. En substance, il en ressortait que Penn était réellement un sujet loyal de Guillaume. Il déclara qu'il ne complotait pas et ne connaissait aucun complot, et demanda seulement que le roi lui accordât une entrevue afin qu'il pût se disculper. Occupé en Irlande, le roi ne put le voir à ce moment-là, et Penn demeura donc caché. Un peu plus tard, il écrivit de nouveau à Sidney, le pressant de supplier le roi de ne pas croire toutes les histoires injustes qui circulaient à son sujet. Il dit qu'il ne désirait que d'être autorisé à vivre tranquillement en Angleterre ou en Amérique, et ajouta que les Quakers se porteraient garant qu'ils resteraient tranquilles et ne feraient aucun mal. Il conclut en disant qu'il se sentait très maltraité et qu'un sujet moins pacifique aurait presque pu être poussé à conspirer par de tels mauvais traitements. Il n'osa toutefois pas se livrer pour être jugé sur l'une quelconque des accusations portées contre lui. Il se sentait certain de pouvoir expliquer ses accusations s'il pouvait rencontrer le roi en privé, mais il ne se soumettrait pas à un procès public au tribunal. Il dit à Sidney, qu'on me croit et je suis prêt à paraître, mais lorsque je me rappelle comment on a commencé à me traiter en Irlande, sur des preuves corrompues avant cette affaire, et ce que certaines mauvais gens ont menacé ici, outre ceux qui sont sous tentation, et les providences qui se sont successivement manifestées pour ma préservation dans cette retraite, je ne puis, sans une présomption injustifiable, me mettre au pouvoir de mes ennemis. Il ne semble guère douteux que, puisque sa résidence privée à Londres aurait pu être facilement connue, le roi et la reine n'avaient aucun désir de le traduire en justice, croyant à son innocence, mais que son nom avait été inclus dans le mandat par certains conseillers du roi, pour l'effet produit sur l'opinion publique. De son lieu de retraite, il envoya la lettre suivante à l'Assemblée annuelle des Amis, 30e jour du 3e mois, 1691. Mes bien-aimés, chers et honorés frères, mon amour immuable vous salue, et bien que je sois absent d'auprès de vous, je sens la vie douce et humble de votre communion céleste, par laquelle je suis avec vous, et participant parmi vous, vous que j'ai aimé plus que ma joie la plus chère. Ne recevez aucune mauvaise supposition, et ne laissez pas non plus des pensées dures par les insinuations de quiconque entrer dans vos esprits contre moi, votre ami et frère affligé mais non abandonné. Mes ennemis sont les vôtres, et au fond, les miens pour l'amour de vous, et Dieu voit en secret, et un jour récompensera au grand jour. Mon retrait n'est pas parce que des hommes ont juré vrai, mais faux contre moi, car des hommes méchants m'ont guetté, et de faux témoins ont mis à ma charge des choses que je ne connaissais pas, eux qui n'ont jamais recherché mon intérêt mais le bien de tous au travers de grandes épreuves, et j'ai fait quelques biens, et j'en aurais fait davantage, et n'ai fait de tort à personne, mais ai toujours désiré que la vérité et la justice, la miséricorde et la paix, aient place parmi nous. Sentez-moi près de vous, et tenez-moi près de vous, mes chers et bien-aimés frères, et ne m'abandonnez pas, ne me délaissez pas, mais luttez avec celui qui est capable de l'emporter sur les désirs cruels de certains, afin que nous puissions encore nous rencontrer dans les assemblées de son peuple, comme au jour passé, pour notre consolation mutuelle. Que le Dieu éternel de ses élus, dans toutes les générations, soit au milieu de vous, et couronne vos assemblées les plus solennelles de sa présence bénie, afin que son amour et sa vie tendre, doux, humble et céleste puissent couler parmi vous, et qu'il lui plaise d'en faire pour vous une occasion salutaire et féconde, désirant être rappelé par vous devant lui, dans les approches les plus proches et les plus fraîches, moi qui ne puis vous oublier dans la relation la plus intime. Votre fidèle ami et frère, William Penn. Pendant ce temps, le roi Guillaume lui retira le gouvernement de sa province de Pennsylvanie, et les revenus de ses domaines en Irlande furent déclarés confisqués. Au bout d'un certain temps, il dut penser que le gouvernement pouvait être devenu plus favorable à son égard, car il chercha à obtenir de Lord Rochester qu'il le réconcilie avec le roi Guillaume. Il dit que si le roi abandonnait les accusations contre lui, il retournerait en Pennsylvanie, bien qu'il souhaitât d'abord aller en Irlande et tenter de récupérer une partie de ses domaines ruinés. On craignait désormais moins les conspirations des partisans de Jacques Yi. Trois nobles, Lord Rochester, Rainlog et Romney, le nouveau titre de son ami Henry Sidney, virent le roi en faveur de Penn. Guillaume était disposé à l'indulgence. Ainsi Penn put écrire cette lettre intéressante à ses amis de sa colonie américaine, « Ceci vient par le Pennsylvania Merchant, Harrison Commandant et ses Sunday Marchands. Heureux et par ceci, sachez qu'il a plu à Dieu d'œuvrer à mon élargissement, trois lords ayant représenté ma cause comme non seulement dure, mais oppressive, qu'il n'y avait rien contre moi, sinon ce que des imposteurs, ou ceux qui ont fui, ou encore ceux à qui depuis le pardon a été refusé, ont allégué sans pouvoir le vérifier et m'ont demandé pardon d'avoir dit ce qu'ils ont dit, qu'ils me connaissaient depuis longtemps, certains depuis 30 ans, et ne m'avaient jamais connu faire une mauvaise action mais bien des services, et que pour. » Le roi Guillaume répondit que j'étais son ancien connaissant tout comme le leur, et que je pouvais vaquer à mes affaires aussi librement que jamais, et qu'il n'avait rien à me dire, sur quoi ils le pressèrent d'ordonner à l'un d'eux d'en faire déclaration au secrétaire d'État, ce John Tranchard, afin que si je venais à lui, ou autrement, il pût me le signifier, ce qu'il fit aussi. Les lords étaient Rochester, Rainlog et Sidney, et le dernier, comme ma plus grande connaissance, devait en parler au secrétaire, il le fit donc, et le secrétaire, après s'être entretenu lui-même, et l'avoir entendu de la bouche même du roi Guillaume, me fixa un moment pour le rencontrer chez lui, et il le fit avec le marquis de Winchester, et me dit que j'étais aussi libre que jamais. Et comme il ne doutait pas de ma prudence quant à ma vie tranquille, car il m'assura que je ne serais ni inquiété ni lésée dans aucune de mes affaires. Le secrétaire est mon vieil ami, et quelqu'un que j'ai servi après l'affaire du duc de Monmouth et de Lord Russell. Je l'ai conduit dans mon carrosse à Windsor et l'ai présenté au roi Jacques, et quand la révolution est survenue, il a acheté mes 4 chevaux qui nous y avaient portés. C'était environ 3 ou 4 mois avant la révolution. Les lords parlèrent le 25 novembre, et il me déchargea le 30. Du secrétaire, je me rendis à notre réunion, au Bull and Mouse, là pour visiter le sanctuaire de ma solitude, puis ensuite pour voir ma pauvre femme et mes enfants, l'aîné étant avec moi tout ce temps. Ma femme est encore faible, mais je ne suis pas sans espoir de son rétablissement, elle qui est des meilleures des épouses et des femmes. Ainsi Penn reparut au grand jour à Londres, il recommença presque immédiatement à assister aux réunions Quakers au Bull and Mouth à St. Martin's. À la décharge de Penn, il faut dire que les hommes qu'il avait impliqués dans les 2 complots furent, pour la plupart, discrédités par la suite. En outre, Guillaume, bien que n'étant pas particulièrement friand d'un ami aussi proche de Jacques, était manifestement conscient de son innocence, sinon il n'aurait pas traité avec autant de désinvolture sa déclaration de ne se préoccuper en rien de Penn. Ainsi les actes de Penn furent justifiés par l'issue, ses crimes supposés furent ignorés, et il fut rétabli sans même un avertissement ou une comparution devant un tribunal. Aucune de ces accusations n'aurait été portée contre Penn si le pays n'avait pas été paranoïaque à propos d'une prise de pouvoir catholique du pays, cédant au pape. Et avec l'amitié très visible et éminente de Penn pour Jacques, ainsi que ses conseils, en trame une contre-révolution avec l'aide du roi catholique de France, Penn était une cible toute désignée pour des hommes très effrayés et en colère. Au moment où Penn recouvra sa liberté grâce à Guillaume, elle était depuis quelque temps en très mauvaise santé, et environ 3 mois plus tard, le 23 février 1693, elle mourut. Il a laissé aussi une description émouvante de sa mort, trop longue pour être citée intégralement. Elle ne voulait pas que je néglige aucune réunion publique après avoir recouvré ma liberté, à cause d'elle, disant souvent « Oh va mon très cher, n'empêche aucun bien à cause de moi. Je désire que tu y ailles, j'ai remis mon souci au Seigneur, je te reverrai. » Lorsque sa douce épouse mourut, elle laissa 3 enfants, Springette, William et Letitia. Ils avaient été un couple très uni, et Penn trouva cette perte très difficile à supporter. L'homme désormais connu dans le monde comme le Grand Quake, propriétaire et gouverneur de la colonie de Pennsylvanie de Sa Majesté, se trouvait dans une situation très triste. Sa femme morte, son influence de courtisan pire que perdu, ses biens dilapidés, et sa province au nom retentissant lui coûtant cruellement. Il voulait partir aussitôt pour cette province, mais se heurta à la condition humiliante de ne pouvoir rassembler assez d'argent pour s'y rendre. Il écrivit une lettre poignante à ses amis de la province décrivant ses pertes et demanda que 100 colons lui prêtent chacun son livre pendant 4 ans sans intérêt, puis, après 4 ans, avec intérêt, son propre engagement devant servir de garantie. Je regrette d'être obligé de rapporter qu'en Pennsylvanie, on ne prêta pas la moindre attention à cette demande pourtant très raisonnable. Penn avait dit que, s'il ne voulait pas lui prêter la totalité des 10 000 livres qu'il demandait, il se contenterait de tout ce qu'il pourrait lui prêter. Mais ils ne lui prêtèrent pas un sou. On peut dire ici, en explication partielle de cette conduite, que Penn n'était alors pas populaire en Pennsylvanie. Sa tentative de gouverner la colonie à 3 000 milles de distance, à travers le règne troublé de Jacques Yee, et les années qui suivirent la Révolution, avait échoué. Il avait aussi perdu du crédit parmi les Quakers. Beaucoup d'entre eux préféraient le roi Guillaume à Jacques, et Penn avait, depuis de nombreuses années, donné l'impression d'être profondément engagé en politique et dans les occupations d'un courtisan, ce qui était incompatible avec la pratique et les principes de son peuple. Il pouvait excuser bien des choses en raison de sa position distinguée et du bien qu'il avait pu leur faire, mais il était allé beaucoup trop loin. Il ne fait aucun doute qu'à cette époque, il le considérait avec froideur. Penn avait été abandonné par une partie des siens, ce qui, ajouté à la détestation que lui portaient les partisans de Guillaume, faisait de lui presque un paria de la société. Clarkson laisse entendre que la désapprobation des Quakers à son égard ne venait que de ce qu'il croyait, qu'il s'était davantage mêlé de politique ou des affaires du gouvernement qu'il ne convenait à un membre de leur corps chrétien. Thomas Lowe, Quaker éminent et gendre de George Fox, prépara un texte que Penn devait signer, dans l'espoir d'aboutir à une réconciliation. Il devait y déclarer « Et si, en quoi que ce soit durant ces dernières révolutions, je me suis impliqué, soit par parole, soit par écrit, par amour, compassion ou bonne volonté envers certains dans la détresse, au-delà de ce qui était compatible avec l'honneur de la vérité ou la paix de l'Église, je le regrette, et le gouvernement l'ayant laissé passer, je désire que vous le laissiez passer aussi, afin que nous soyons tous gardés et préservés dans le lien saint. » Clarkson vol, H. P. 15 Stoughton, P. 210. Apparemment, au moins certains des Quakers croyaient que Penn s'était fourvoyé lors de la Révolution. Ce n'est certainement pas une déclaration d'aveu de faute, ce qui indique que Lowe s'adressait à la controverse plutôt qu'à la censure. C'est simplement l'expression d'un regret que certains puissent considérer ce qu'il a fait comme une faute. Cela n'admet aucune faute, seulement un vague. Si quelque chose de ce que j'ai fait était mal, avec le recul, je le regrette. Même cela, Penn n'accepta pas de le signer, du moins pas immédiatement. Mais un an ou deux plus tard, à l'été 1694, il y eut, selon Clarkson, une réconciliation complète, mais les détails ne sont pas disponibles. Les Quakers, dans leur ensemble, ne pouvaient pas être trop contrariés par Penn, car lorsque Fox mourut, longtemps après la déposition de Jacques Yee, Penn fut choisi pour annoncer la nouvelle de la mort de Fox à son épouse, Margaret Fox, qui se trouvait à 200 milles de là, à Swarthmore. Il est également noté que lorsque sa mort fut annoncée dans une réunion Quake, la séance fut interrompue par les larmes et les gémissements d'hommes de stature tels que Penn et Whitehead, des gens dont les émotions étaient habituellement plus étroitement contrôlées. Le rétablissement de ses biens fut pour Penn un encouragement, mais une source d'inquiétude surgit d'un autre côté. Il fut profondément préoccupé en remarquant l'état de santé de son fils aîné. Guglielma avait laissé 3 enfants, Springette, William et Letitia. une autre fille, Guglielma Maria, était morte en 1689, et maintenant Springette, le compagnon le plus attaché et le plus dévoué de son père, semblait décliner. Letitia n'était encore qu'une enfant. William était généreux, mais trop porté aux amusements et à une compagnie festive. C'est probablement en raison de ces circonstances familiales que William Penn ressentit la nécessité de choisir une autre épouse. Son second choix fut Anna, fille de Thomas Calorill et petite-fille de Denny Olisté, tous deux éminents marchands de Bristol et membres de la Société des Amis. Ils se marièrent au printemps 1696. Springette mourut au grand chagrin de Penn. Le fils de Penn, Springet, était un jeune homme très religieux et son père écrivit un long récit de sa mort. C'est très émouvant et plein de tendresse et une révélation intéressante du fonctionnement de l'esprit Quake, se repliant sur lui-même et communiant, par la voie intérieure avec Dieu. Cela nous est donné, dans le récit touchant de sa mort et de son caractère, intitulé « Sorrow and Joy in the Love and End of Springette Penn », dont sont tirés les extraits suivants. Un jour il nous dit « Je me résigne à ce que Dieu veut, il sait ce qui est le mieux. Je vivrai si cela lui plaisait, afin de le servir, mais, ô Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne soit faite. Lorsqu'il me dit qu'il avait bien reposé, et que je dis que c'était une miséricorde, il répondit aussitôt, avec un regard grave et pourtant doux, « Tout est miséricorde, cher Père. » Une autre fois, quand je partis à la Réunion, il dit, « Souviens-toi de moi, mon cher Père, devant le Seigneur. Bien que je ne puisse aller aux Réunions, j'en ai pourtant ici beaucoup de bonnes. Le Seigneur vient sur mon esprit. » J'ai avec lui des réunions célestes seules. Peu de jours avant de mourir, le Seigneur se manifestant par sa sainte puissance sur son esprit, lorsque je lui demandai à mon retour comment il allait, il me dit « Oh, j'ai eu un doux moment, un moment béni, de grande jouissance, la puissance du Seigneur a vaincu mon âme. » Lui disant que certains gentilshommes qui étaient venus lui rendre visite étaient repartis pour leurs jeux, leurs sports et leurs plaisirs, il dit « Au sujet de l'idée que de telles choses apportent le bonheur, « Ce n'est que du fatras, mon cher père du triste fatras. Aussi je pouvais vivre pour le leur dire, « Eh bien, mon cher enfant, répondis-je, que ce soit le temps d'entrer en alliance secrète avec Dieu, afin que s'il te relève, tu lui consacres ta jeunesse, ta force et ta vie à lui, à son peuple et à son service. » Il répondit, « Père, ce n'est pas maintenant à faire, » répétant avec une grande tendresse d'esprit, « Ce n'est pas maintenant à faire. » Étant presque toujours près de lui, et faisant pour lui tout ce qu'il voulait, il s'écria avec beaucoup d'amour, « Mon cher père, si je vis, je te dédommagerai. » Lui parlant des jouissances divines que l'œil de l'homme n'a pas vues, mais que l'âme, rendue vivante par l'Esprit du Christ, sent clairement, il s'écria dans un souvenir vif, « Oh, j'ai eu hier un doux moment seul. Que le Seigneur m'ait conservé jusqu'à ce jour, béni soit son nom, mon âme le loue pour sa miséricorde. » Fixant ses yeux sur sa sœur, il lui prit la main en disant, « Pauvre Tiche, tourne-toi vers les bonnes choses, pauvre enfant, il n'y a pas de consolation sans cela. Une goutte de l'amour de Dieu vaut plus que tout le monde. Je le sais, j'y ai goûté. J'ai senti autant ou plus de l'amour de Dieu dans cette faiblesse que dans toute ma vie d'avant. Une autre fois, comme je me tenais auprès de lui, il dit, « Cher Père, assieds-toi près de moi. J'aime ta compagnie, et je sais que tu aimes la mienne. Si c'est la volonté du Seigneur que nous devions nous séparer, ne sois pas troublé, car cela me troublerait. » Prenant quelque chose un soir au lit, juste avant de se reposer, il se redressa et pria avec ferveur ainsi, « Ô Seigneur Dieu, toi dont le Fils a dit à ses disciples, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, vous le recevrez, je te prie en son nom de bénir ceci pour moi cette nuit, et de me donner du repos, si telle est ta volonté bénie. » Et de fait, il eut une nuit très confortable, ce dont il fit devant nous une remarque reconnaissante le lendemain. Lorsqu'à un moment il exprima plus que d'ordinaire le désir de vivre, et me supplia de prier pour lui, il ajouta « Et cher père, si le Seigneur devait me relever et me rendre capable de le servir, lui et son peuple, alors je pourrais voyager avec toi parfois, c'est-à-dire dans le ministère, et nous pourrions nous soulager l'un l'autre. » Il dit cela avec une grande modestie. Alors je lui répondis, « Mon cher enfant, s'il plaît au Seigneur de te relever, je suis satisfait que ce sera ainsi, et sinon, puisque tel est ton désir ferve dans le Seigneur, il te regardera comme si tu vivais pour le servir, et ta consolation sera la même. Ainsi, de toute façon, tout ira bien, car si tu ne devais pas vivre, je crois vraiment que tu auras la récompense de tes bons désirs, sans les tentations et les troubles qui viendraient si une longue vie t'était accordée. » Se sentant décliner rapidement, quelqu'un alla chercher le médecin, mais dès qu'il entra, il dit « Que mon père parle au médecin et moi j'irai dormir », ce qu'il fit, et ne se réveilla plus, rendant son dernier souffle sur ma poitrine, le 10e jour du second mois, entre 9 et 10 heures, 1696, dans sa 21e année. En l'année 1697, William Penn s'installa avec sa famille à Bristol, ville natale de son épouse. Le printemps suivant, il visita l'Irlande, emmenant avec lui son fils William. ils arrivèrent à Dublin en temps voulu pour assister à la réunion semestrielle. Thomas Story, qui se trouvait également là à cette occasion, en parle ainsi. Grand fut l'afflux de personnes de tous rangs et professions à nos réunions, principalement à cause de notre ami William Penn, qui était toujours pourvu par la vérité de matière suffisante pour répondre pleinement à leurs attentes. Beaucoup de membres du clergé étaient présents, et le peuple d'une seule voix loua ce qu'il entendit. Parmi le clergé se trouvait le doyen de Derry, qui, y étant allé plusieurs fois, fut interrogé par son évêque pour savoir s'il n'y avait entendu que blasphème et non-sens, et s'il retirait son chapeau pendant la prière. Il répondit qu'il n'avait entendu ni blasphème ni non-sens, mais la vérité éternelle, et qu'il ne retirait pas seulement son chapeau à la prière, mais que son cœur disait amen à ce qu'il entendait. Le langage de ces deux dignitaires donne une idée juste de la diversité de traitement et d'opinion que William Penn rencontra en Irlande comme en Angleterre de la part du parti de l'Église épiscopale. Il passa plus de 3 mois en Irlande à cette occasion, dont la plus grande partie fut consacrée à un travail d'évangile de lieu en lieu. Quelques semaines furent consacrées à l'examen de ces domaines dans le comté de Cork, d'abord ceux de la baronnie d'Immokalee, où se trouvait le château de Shangarry, théâtre de certains souvenirs marquants de ces jeunes années. Quels souvenirs cette région dut réveiller ! Le père et le fils se rendirent ensuite à la baronnie d'Ibone et Barryro pour voir le reste de ces domaines dans ces contrées. À Cork et à Bandon, ils eurent de bonnes réunions, suivis par de grands nombres de toutes conditions et professions. Là, ils apprirent, par des lettres d'Angleterre, que pendant l'absence de William Penn une attaque ignoble avait été portée contre son caractère, jusque dans l'Assemblée annuelle de Londres. Mais cela, dit Thomas Story, fut fait par un parti impudent et implacable, poussé par l'envie de l'honneur et de la dignité que le très hôte avait bien voulu lui conférer. Il ajoute que, peu après avoir reçu ces nouvelles, ils eurent une autre réunion nombreuse et très fréquentée à Cork, où tous ceux qui avaient entendu parler des mauvaises insinuations faites à Londres purent être assurés qu'elles provenaient d'une racine fausse et mauvaise, car le Seigneur voulut revêtir William, ce jour-là, de majesté, de saint zèle et de sagesse divine, à la grande satisfaction des amis et à l'admiration et aux applaudissements du peuple. Commentaire de l'éditeur du site, la mesure dans laquelle le mouvement Quick s'était déjà dégradé est indiquée par le fait qu'une attaque contre Penn ait même été permise lors de l'Assemblée annuelle. Quelques années auparavant, une attaque de ce genre contre un autre membre dans une assemblée annuelle aurait été impensable, car elle violait la paix et l'unité de la société. Cette attaque violait un principe fondamental de la société, qu'aucun membre ne devait être attaqué publiquement dans une réunion quelconque, sauf s'il avait d'abord été approché par quelqu'un pour un reproche, à défaut, approché par 2 ou 3, à défaut, censuré par l'Église. Cela était soigneusement exposé dans les instructions de Jésus et les lettres de Fox, comme exigence minimale, et faisait l'objet des réunions mensuelles, avec des directives précises sur la manière dont la censure devait avoir lieu, en limitant de telles décisions aux anciens de chaque assemblée. Et si l'enquête révélait un faux rapport, l'accusateur devait être sévèrement réprimandé. Le fait que cette attaque ait eu lieu dans une assemblée annuelle montre que le tissu de la discipline Quake avait pratiquement disparu, d'autant plus que Penn était en Irlande à prêcher l'évangile de la vérité à des milliers de personnes pendant 3 mois, à ses propres frais. L'ennemi était dans le camp du Seigneur, apparemment sans opposition, ce n'était qu'une question de temps avant que le levain n'affecte toute la pâte. Nous avons trace de William Mead, ancien ami, ayant épousé une des filles de Margaret Fell, qui avait cessé d'assister aux réunions Quakers, ce qui nous amène à nous demander s'il ne pouvait plus continuer à s'associer à de tels esprits indisciplinés. Le parti implacable auquel Thomas Story fait allusion était probablement celui dont Guglielma Penn parlait dans sa dernière lettre à Margaret Fox, comme de « mauvais esprits » qui troublaient l'harmonie de leur réunion. Peu après le retour de William Penn d'Irlande, il commença les préparatifs pour partir avec sa famille en Amérique. Avec cette perspective, ses arrangements avancèrent durant les premiers mois de 1699. Des enfants de Guglielma, seul Letitia l'accompagna. William était marié, et lui et sa jeune épouse choisirent de rester en Angleterre. Les documents dont, en qualité de ministre de la Société des Amis, il fut muni à cette occasion montrent abondamment, comme le remarque son biographe américain, Samuel Janet, qu'il était en pleine unité avec ses corligionnaires et grandement aimé d'eux. Le certificat de la réunion mensuelle de l'Essex, à laquelle il avait appartenu pendant la plus grande partie de son appartenance à la Société, fut recopié par Janet à partir des archives des amis à Philadelphie. De notre réunion mensuelle tenue à Rosham, en Vieille-Angleterre, le 14 du 5e mois 1699, aux Églises du Christ en Pennsylvanie et à tous les amis fidèles et frères à qui ceci pourra parvenir. dans l'alliance de vie et la communion de l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, et dans l'unité du seul Esprit éternel de notre Dieu, nous vous saluons affectueusement, désirant très ardemment votre prospérité éternelle dans la vérité bénie. Maintenant, chers amis et frères, puisque notre dit ami et ancien William Penn fait part à notre réunion mensuelle des hommes de son intention de voyager vers sa province de Pennsylvanie, et bien que nous soyons pleinement conscients qu'il n'a besoin d'aucune lettre ni recommandation de notre part, pourtant, à sa demande, et pour le bon ordre que Dieu a établi dans son Église et parmi son peuple, et pour l'amour sincère que nous portons à notre ami bien-aimé, nous ne pouvions faire moins que de donner ce petit gage de notre. Il a marché parmi nous en toute humilité, sincérité pieux et véritable amour fraternel, pour notre grand rafraîchissement et notre consolation, et, avec beaucoup de labeur et de grandes peines, il s'est efforcé en toute occasion de défendre la vérité contre ses adversaires, et de préserver la véritable unité et le bon ordre dans l'Église du Christ. Ainsi, dans l'unité du seul Esprit éternel, qui est le lien de la vraie paix, nous prenons congé de lui, avec d'ardents soupirs et des supplications au grand Dieu auquel obéissent les vents et les mers, afin qu'il lui plaise dans sa miséricorde de l'accompagner, de le conduire par l'ange de sa présence divine jusqu'au port désiré, et de le préserver jusqu'à la fin de ses jours, et à la fin qu'il reçoive une couronne immortelle et soit lié dans le faisceau de la vie parmi ceux qui en ont amené beaucoup à la justice, qui brille comme le soleil. Amen. Partie vie de peine. Le but de ce site web est de montrer comment devenir libre du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.